Donc bonjour. Donc je vais ouvrir les deux séances des séminaires de philosophie qui se déroulent à la Maison Populaire de Montreuil le 6 et 7 mars 2009. Donc le thème de ces séminaires, le thème qui a été choisi, c'est philosophie et esthétique du double et du dédoublement. Donc ces séminaires s'inscrivent enfin dans une continuité. La continuité, c'est celle donc du forum qui a été réalisé. Que j'ai dirigé donc au Collège international de philosophie fin novembre, le 29 novembre 2008, donc sur le même thème, donc avec d'autres intervenants. Et donc il y a donc une continuité de ce thème du double et du dédoublement à travers à la fois donc le forum du CIPH, les séminaires d'aujourd'hui et de demain à la Maison populaire de Montreuil, et aussi les écrans philosophiques. Les écrans philosophiques qui sont organisés conjointement par le CIPH et par la Maison populaire de Montreuil. C'est une série de séances de films qui sont projetés au cinéma Le Méliès et sur lesquels différents intervenants font une présentation sur le thème du double. Donc il y a déjà eu plusieurs présentations sur le thème du double aux écrans philosophiques. Une présentation sur Tarkovski, j'ai présenté le miroir de Tarkovski sur le thème du double. Il y a aussi Persona d'Ingmar Bergman, qui a été présenté. Au Méliès également, et il y aura bientôt le 25 mars Julien Palota qui présentera un film de Cronenberg toujours sur le même thème du double et du dédoublement. Cette soirée elle va être organisée autour au fond de deux soirées thématiques. Donc la première soirée liée à l'esthétique et à la philosophie du dédoublement, et la deuxième soirée consacrée intégralement au théâtre. Donc je me présente rapidement. Je suis Jean-Yves Hortebiche, donc je suis docteur de philosophie. Donc je suis membre du CRAL, le Centre de recherche sur les arts et le langage à l'EHESS. Aussi membre depuis peu associé au CEPERC. Donc je fais régulièrement des conférences au Collège international de philosophie et bientôt j'entamerai un postdoc à Taïwan l'année prochaine. L'idée c'est quoi ? L'idée c'est au fond de penser la notion de double, de penser la notion de double et de doublement comme une manière d'aborder toute une série de notions, d'accord ? Comme une manière d'aborder d'abord d'une certaine manière la relation du jeu et de l'autre. Le jeu et de l'autre, ça signifie quoi ? Ça signifie au fond une type de relation qui est une relation en fait polaire, c'est-à-dire à la fois une relation double. Là, par double, j'entends le fait de se rapporter à soi-même comme à un autre. Et donc, et là, ce qui se pose, le problème qui va se poser, c'est de comprendre ce qu'on va pouvoir voir, ce qui va peut-être être évoqué, c'est de comprendre le rapport entre identité et subjectivité, de comprendre comment est-ce qu'il peut y avoir une subjectivité sans identité et les problèmes que ça pose au niveau de la définition de l'identité. Et donc, de ce point de vue, est-ce que le double, c'est une menace pour le sujet, quelque chose qui le confronte à quelque chose qui le dépasse, ou est-ce que c'est au contraire une manière pour le sujet, finalement, d'acquérir une puissance supérieure, et notamment à travers la création artistique. Donc, l'autre pôle du rapport double et dédoublement, c'est donc le dédoublement. Donc, ici, dédoublement comme l'idée de se rapporter aux autres comme à soi. Et ici, l'ensemble des thématiques qui vont être associées à ces notions de dédoublement, c'est les idées du rapport entre l'actuel et le virtuel. Et rapport actuel virtuel au sens de Bergson et la manière dont Bergson et Deleuze ont travaillé ces notions, mais aussi le rapport entre l'image et le réel, et enfin le rapport entre action et représentation qui va être étudié surtout quand on va parler de théâtre, bien sûr. Donc le programme de ces deux journées, c'est le suivant. Aujourd'hui, 6 mars, donc il va y avoir donc deux thèmes qui vont être étudiés, donc l'esthétique du double, avec une première conférence de Alain Charrière-Méjean, professeur d'esthétique à Aix-Marseille Université. Donc il va nous parler d'imiter l'existence. Et ensuite, après je présenterai chacun des conférenciers, ensuite Natacha Punier, qui est donc Prague à Aix-Marseille Université, il va nous parler donc de l'artiste et du double. Elle a récemment fait un colloque sur le double, sur le même thème, à Aix-Marseille. Et enfin, après une pause, une philosophie du dédoublement avec Samuel Tronson, qui est postdoctorant à l'Université de Paris 8. Et demain, donc le 7 mars, on va étudier donc la notion du théâtre, théâtre et ses doubles, donc c'est le thème, donc rapport entre double et dédoublement, entre théâtre et le dédoublement, et donc avec un entretien entre Ismaël Jude et Denis Guénoun, suivi d'une conférence par Eric Zobel, qui est metteur en scène, et enfin Olivier Saccomano, qui est aussi metteur en scène et doctorant de philosophie à Prague à Aix-Marseille Université. Donc, on va commencer donc par une intervention, une conférence donc de Monsieur Alain Charmejean, donc qui est professeur d'esthétique à Aix-Marseille Université et qui a écrit notamment des livres donc sur le fantastique, donc expérience esthétique et sentiment de l'existence, et le réel et le fantastique, tous deux chez l'Harmattan. Donc je laisse la parole à Monsieur Alain Charmejean, qui nous a fait l'honneur de venir parler ce soir. Donc voilà. Oui, je me permets de se faire.
Et c'est bien quoi. Ce que j'ai retrouvé aussi, c'est le titre de l'intervention que je vous avais donné il y a pratiquement un an, non ? Je me trompe. Imiter l'existence, c'était très bien, c'est ça que je voulais dire.
Ah bah,
c'était ça mon thème, oui. Oui, c'est exactement la question qui m'intéresse. Je suis obligé de tenir le micro. Vous ne m'entendez pas, non. Vous préférez que je tienne le micro. Oui, pour enregistrer, c'est ça?
Ah oui,
d'accord.
Ça passe entre les jambes, c'est pour ça.
Alors, si je vois mes notes, j'avais réintitulé. Combien de temps me donnez-vous? 20 minutes, c'est ça?
Il y a écrit 35.
Ah, alors si c'est écrit, c'est très bien. Il faut que ce soit écrit. Non, 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 mais je prendrai le temps que vous me donnez. Pourquoi? Il n'y a pas de problème. Alors, bon, je l'ai dit hein, à notre hôte aujourd'hui. C'est un étudiant avant-hier qui m'a rappelé que le séminaire était ce soir et pas dans un mois, au mois d'avril, comme j'avais noté sur mon calepin. Pas du tout un problème, puisque j'habite Paris, j'enseigne à Aix, mais j'habite Paris, donc je suis venu. Mais vous voyez, je suis bien content de retrouver le titre que je vous avais donné, qui correspond exactement à ce que je voulais dire, qui renvoie exactement à la question qui me travaille, celle de l'imitation de l'existence, de l'état d'existence. Alors j'avais intitulé là mes quelques réflexions avec vous ce soir. L'épouvante de l'identité absolue. Vous allez voir que ça revient au même. Vous connaissez la formule de Bonnefoy. L'épouvante de l'identité absolue. Donc, si vous voulez, je m'attache à la question du double. Au double, non pas comme thème littéraire, cinématographique, enfin même thème esthétique en général, mais au double comme question. Et sans doute comme question philosophique. Je ne suis pas le premier, je ne suis pas le dernier. Enfin bon. Ça commence peut-être avec Platon, le genre de la ressemblance est un genre glissant. Bon, voilà. Et le double, la question du double le montre tout particulièrement. Alors il y a j'essaie de venir un peu vite au noyau dur de ce que je veux vous dire, il y a, si je vois bien mes notes, je les vois mal, mais je vais me déplacer un peu, il y a cette remarque donc de Sarah Kaufman, qui Dieu sait qu'elle a travaillé sur le double, hein, Sarah Kaufman, comme vous savez. Il y a cette remarque de Sarah Kaufman dans un texte sur les élixirs du diable, d'Hoffmann, dans Mimésis des articulations, jadis, qui dit la chose suivante. Elle dit « Le double ne peut pas être considéré comme un simple thème littéraire, il est ce qui vient entamer l'identité et l'unité du sens ». Alors, pourquoi? Parce que, au lieu de représenter ce qu'il indique, le double, à la façon de l'idole, si vous voulez, l'incorpore et l'emporte avec lui. Tout en donnant l'impression de dédoubler les qualités, les modalités d'être des choses auxquelles il ressemble, le double se contente de redoubler le seul caractère existant de ces choses dans leur réalité insignifiable, dans sa réalité, ce caractère existant est signifiable. Par conséquent, de mon point de vue, le double propage d'une certaine façon, au fond, ce que j'appellerais, ça c'est très gentil, merci beaucoup, voilà, c'est très gentil. Donc, le double, je dirais, propage, d'une certaine façon, l'assise seulement poétique des choses. Vous verrez plus tard pourquoi je le dis comme ça. En exhibant leur mêmeté existentielle. Et leur mêmeté existentielle dans sa dimension inanalysable, bien entendu. Hein, puisque l'existence n'est pas binaire et, par conséquent, n'offre pas de prise à l'analyse. Rosset, donc, hein, dont vous me disiez que vous y faisiez référence, puisque Rosset a beaucoup travaillé sur le double. Rosset, si le double parvient, comme il y parvient en effet de manière incomparable, à représenter le réel, c'est justement parce qu'il contredit toute possibilité de représentation et réussit ainsi la performance, si l'on peut dire, Rosset entre virgules, de présenter le réel en tant que non présentable. M'intéresse donc dans un premier moment ce que j'appellerais le sentiment d'étrangeté, le sentiment d'étrangeté fantastique, si vous voulez, qui nous arrête lorsque nous affrontons le pur redoublement du réel. Ou, je ne les distingue pas pour l'instant, le pur dédoublement du réel. Regardez, souvenez-vous, chez Poe avec William Wilson, hein, cette relation entre le double et la mort, c'est-à-dire l'impossibilité de se représenter ou de représenter davantage. Et la fin de William Wilson, « Tu es mort, toi aussi. Si je suis mort, dit le double, tu es mort, toi aussi. » Le double, c'est ce qui empêche, et c'est ça son caractère mortifère, c'est ce qui empêche d'externaliser la représentation, hein, de lui donner un point d'appui extérieur, qu'il avale en permanence, ce point d'appui extérieur. Alors, William Wilson, à quoi tient la stupeur de William Wilson? Que représente au fond de moi-même, que représente au fond mon double? Et que dois-je en interpréter? Je sais que la question du double, enfin le double est un objet privilégié d'interprétation. Dis-moi quel est ton double ou si tu as un double et je te dirai qui tu es. Mais le problème c'est que, évidemment, comme l'interprétation se fait toujours au nom de quelque chose qui est supposé manquer, avec le double, la question même de l'interprétation tombe. Il n'y a pas à interpréter le double. Le double a lieu, il arrive, et il emporte l'interprétation avec lui. Pour approfondir ce point qui m'intéresse beaucoup, je me penche une seconde sur un texte que vous avez tous lu, qui est un texte de Jacques Roubaud, hein, le poète, l'essayiste, l'écrivain, enfin que vous connaissez, le mathématicien aussi. Sur la carte de visite de Roubaud, il y a Jacques Roubaud, poète provençal. Comme vous savez, si vous connaissez Roubaud, si vous vous intéressez à lui. Si vous ne vous intéressez pas à Roubaud, c'est un péché, enfin, c'est grave, bien entendu. Il faut lire Jacques Roubaud, c'est un très grand écrivain. Donc, c'est Roubaud et c'est quelque chose noir. Hein. Bon, vous connaissez cet essai sur la mort, cette réflexion autobiographique après la mort de sa première femme, cet ensemble de poèmes de Roubaud, quelque chose noir. Alors, dans quelque chose noir, Roubaud, la femme de Roubaud vient de mourir, et il médite sur une image, sur la morte, sur une image, une photo. Sa femme se trouve sur une photo à Cambridge et il dit, il y a une tombe sur la photo, dans le paysage, il dit « un morceau de tombe est sur l'image ». La morte, le cadavre, la tombe, l'image ne font qu'un. Un peu plus loin, il dit « la morte s'est concrétisée dans ce minime espace ». La tombe sur l'image, mais aussi l'image, la photo, hein, qui ne font qu'un. Et ça donne cette phrase que je lis, qui est le comble de la poésie à la Roubaud, hein, qui renvoie à toute l'idée que Roubaud se fait de la poésie. Hein, puisque chez Roubaud, la poésie, c'est ce qui empêche la paraphrase. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on ne paraphrase pas la poésie. Ce que la poésie veut dire, elle l'est. Hein. Pour une fois, dit Roubaud, adéquation exacte de la mort même à la mort rêvée, la mort vécue, la mort même, identique à elle-même, même. L'image est un double de la morte. Et la morte morte est un double de la morte quand elle était vivante. Et nous renseigne sur ce qu'elle était. Une image, son propre double, en tant qu'elle était réelle. C'est ça qui fascine Roubaud, bien entendu. Prise en tant seulement qu'elle était existante, sa femme était déjà fascinante, il ne le savait pas à l'époque. Il sait maintenant qu'elle est morte, parce qu'elle était déjà comme une image. C'est le caractère seulement existant du réel, là, tout d'un coup, qui devient objet de fascination, et par l'entremise du passage, si on peut dire. Enfin, parce que c'est un passage, mais ça n'est pas une médiation en même temps. On n'est pas dans une opération dialectique, on est dans une opération poétique, l'entremise du passage par l'image. Un peu plus loin, l'image en sortant t'atteignait. Hein, l'image est le double de celle qui est morte et qui était vivante il y a encore peu de temps. Question, pourquoi faut-il une image, hein? Pourquoi faut-il ce double qui ne représente pas? Pourquoi faut-il une image qui n'est pas une délégation en représentation pour faire arriver ce caractère existant? Parce que l'image est insensible à la négation et à l'affirmation, elle est en deçà ou au-delà de l'opposition du vrai et du faux. Ce passage de Roubaud, c'est ce travail de Roubaud sur la morte, pas sur la mort, hein, comme tel littéraire, sur l'état d'être mort de façon singulière d'une personne, fait penser à ce que dit Nancy, j'en ai eu Nancy, dans Corpus, à propos de l'image en général, quand il dit que l'image est, je cite, l'éloge de la chose en tant que détachée. Et ça me fait penser aussi, alors vous voyez que là on est au cœur de la problématique du double et au cœur de ce que je veux vous, du terrain sur lequel je veux vous amener, enfin, de cette pierre que je jette dans votre jardin là ce soir. Blanchot, le mort, c'est dans les appendices de l'espace littéraire, hein. Le mort est EST, son double, car il est sa propre image, il se ressemble. S'il est totalement ressemblant, c'est qu'il est à un certain moment la ressemblance par excellence, semblable à un degré absolu. Mais à quoi ressemble-t-il? À rien. Alors je pose un élément de la thèse que je développe ensuite avec vous, là, dans les minutes qui me restent. Je dirais que, dans la perspective qui est la mienne, vous voyez, en jouant avec les mots, je vous l'accorde, mais enfin, en laissant les mots être en quelque sorte débordés par le silence qui les habite, enfin, avec le double, la représentation affronte son absence du côté du réel, sans doute, si ça veut dire quelque chose de le dire comme ça. Mais enfin, moi, lorsque je le dis, je comprends ce que je veux dire. Déjà ça. Je dirais que, voilà, le double pourrait être ce que j'appellerais la vérification de l'existence par l'existence, ou l'épreuve de la simplicité d'être. Avec lui, apparaît, saute aux yeux, dans le cas de l'image en particulier, l'impossibilité de voir garantir le réel par une autorité extérieure à lui. Trois exemples, peut-être, pour être un peu moins spéculatif. Trois exemples. Oui, j'ai beaucoup travaillé sur l'étrangeté fantastique, hein, jadis, au cinéma, dans la littérature en particulier. Trois exemples que je souhaitais partager avec vous, donnent le plaisir de me souvenir de ma folle jeunesse, enfin, quand j'étais un fan du fantastique. Trois exemples. Regardez. Le marquis de Bolibar, alors trois exemples empruntés à la littérature, hein, ou à la question du double dans la littérature, mais particulièrement saisissant et qui confortent, je pense, qui illustrent très bien le terrain sur lequel je veux vous amener. Le Marquis de Bolibar de Léo Peyrouthe. Je ne sais pas si vous connaissez ce roman fantastique. Enfin, vous connaissez Léo Peyrouthe. Le Marquis de Bolibar, c'est un roman qui met en scène un Espagnol qui s'oppose à l'entreprise napoléonienne en Espagne pendant les guerres napoléoniennes. Un chef de guerre pour l'officier qui le recherche, l'officier français qui le recherche, un chef de bande, un chef de guerre et qui va être capturé par les Français et qui va être condamné à mort et exécuté. Mais avant d'être exécuté, il fait savoir aux Français et il a fait savoir à ses hommes que de toute façon les Espagnols gagneront la guerre et que il reviendra. Il se manifestera d'une manière ou d'une autre et il dit aux Français « je m'arrangerai pour vous vaincre » et il dit à ses hommes « je vous mènerai à la victoire ». Avec le Marquis de Bolibar, alors le roman s'emballe autour de cette prophétie, si vous voulez. Hein. Dans le Marquis de Bolibar, vous avez une contamination vous avez une contamination du monde par l'identité de lui-même, de ses modalités d'être, et de son pur exister. Hein. Alors voilà comment ça marche. Il se trouve que l'officier français qui avait présidé à la capture de Bolibar est à son tour tombé dans une embuscade et est à son tour capturé par les Espagnols. Hein. Et il se trouve au surplus, si je peux dire, de manière ossétienne, hein, par-dessus le marché, que quelques-uns des Espagnols le reconnaissent. Mais c'est bien lui, c'est Bolibar, quelque chose dans le geste, etc. Et cet officier français va dire, il veut qu'on l'exécute, enfin bon, voilà, c'est un officier français. Je ne suis pas Bolibar. Et plus, évidemment, il dit qu'il n'est pas Bolibar, plus il est Bolibar. Bolibar est malin, il se cache là où, de toute façon, on ne pourra pas le trouver, c'est-à-dire dans l'apparence même, là, tout d'un coup, au milieu des Français. Bon, alors, et il va devenir, lui qui est leur prisonnier, il ne va pas pouvoir faire autrement que de devenir, il va devenir Bolibar, hein, puisqu'il va devenir le chef, il a une expérience de la guerre, il va devenir le chef de la bande dont Bolibar était auparavant le chef. Arsène Lupin, Victor de la Brigade Mondaine. Vous souvenez que dans Victor de la Brigade Mondaine, Lupin, pour échapper à la prison, pour sortir de la prison, je crois que c'est la prison de la santé, se déguise en Lupin. Comment va faire Lupin pour quitter la prison? Bah, Lupin se déguise en Lupin, tous l'attirail du lupinisme, si vous voulez, parce que c'est forcément quelqu'un d'autre que Lupin, c'est Victor ou que sais-je. Bon, il sort déguisé en Lupin. Et puis, dernière référence littéraire, c'est de Jolly Corner d'Henry James, où, vous vous souvenez, un homme qui revient dans la maison, dans la ville, qui revient d'Angleterre, dans sa ville natale, en Nouvelle-Angleterre, se demande ce qu'il serait devenu s'il était resté. Et dès lors, il va rencontrer assez souvent dans la maison l'ombre de quelqu'un qui y est, dont il sent que ça pourrait bien être lui s'il y était resté, jusqu'à se voir dans un miroir, et ce qu'il voit dans le miroir, c'est lui qui est là, enfin, et qui, d'une manière ou d'une autre, finit par coïncider avec ce qu'il serait devenu s'il était devenu, précisément, ce qu'il est devenu en étant devenu, en ayant persisté dans l'être, si vous voulez, hein, bien sûr. Voilà. J'avance donc, maintenant. C'est quoi l'espace de la pensée moderne? Foucault, la représentativité de la représentation en tant qu'elle est représentable. Heidegger, conformément au caractère de la pensée moderne, la raison est le pouvoir de se représenter quelque chose comme étant quelque chose. Bon, voilà. Alors, le double interroge, il fait plus qu'interroger, hein, il met en question, hein, il déstabilise l'adéquation classique, hein, du vrai et du réel. La synonymie qui est nôtre entre les épithètes vrai et réel. Vrai et réel cessent de dire la même chose, parce que le réel n'est ni vrai, ni faux. Au fond, le double, c'est ce qui arrive lorsque la chose est ce qu'elle veut dire. C'est la raison pour laquelle il faudra revenir à la poésie, tout à l'heure. J'avais envie de vous demander ce que vous pensiez de cette chose qui m'intéresse beaucoup chez Michel Deguy, cette façon qu'il a, un peu à la Roubaud d'ailleurs, hein, Où on trouve ça chez Claude Royer Journaux aussi, pas beaucoup plus chez Emmanuel Occart. Quand il imite des bruits de fond, le bruit du moteur, du deux-temps d'un bateau qui traverse un golfe, enfin, vous savez, ces poèmes comme ça, puck, puck, puck. Bon. Est-ce que vous pensez donc de ce que dit De Guy sur cette puissance qu'a la poésie de, en quelque sorte, de par le biais du langage, bien entendu, sans sortir du langage, il n'y a pas de dehors au langage, gna gna, etc. On est bien d'accord. Mais cette puissance qu'a la poésie de prendre à revers le langage qu'elle est et qu'il apporte pour, en quelque sorte, le concréter, le concrétiser, hein, et le jeter devant son impuissance à faire autre chose que laisser passer quelque chose qui n'est pas de même nature que lui, in fine. Il y a ces remarques de Stanley Cavell dans le cinéma de Laurentin Meyer, vous vous souvenez, hein, dans lesquels il travaille sur la seconde chance. Cette idée qu'il pourrait y avoir un rapport entre la seconde chance et le double m'intéresse. Hein. La seconde chance, c'est ce qui fait que tout d'un coup, une situation se trouvant être exactement la même qu'une première fois nous saute aux yeux, alors que la première fois nous avait pas sauté aux yeux, un peu comme Yamba, enfin, avec le double ailleurs dans la littérature, ou y compris fantasmatiquement, hein, lorsque je me vois dans un épisode fantastique de mon existence tel quel dans un miroir. C'est Cavell, hein, qui prononce le mot de poésie à propos de la seconde chance. La seconde chance nous fait voir la poésie des choses. Et la poésie des choses, c'est quoi? Ça peut arriver au plombier, vous vous souvenez, hein, au boulanger, aussi bien qu'un poète. Le cinéma est une machine à produire cette chose-là, au point d'ailleurs qu'on se demande pourquoi ensuite le film se déroule, hein, parce que ce sont des arrêts sur image. Pour Cavell, comme pour Labarthe, l'image n'a pas d'avenir au cinéma. Hein. C'est à chaque fois maintenant que l'essentiel a lieu. Mais la seconde chance, la poésie de la seconde chance, ça n'est rien d'autre que l'impression, à tort ou à raison, que en ce moment, le monde est identique à son existé. Hein. Je viens à la poésie Rosset pour commenter cette chose-là. Il n'y a rien de plus précieux à penser que la réalité. Or, celle-ci ne fait qu'un avec sa propre identité. Donc, la parole philosophique qui rend le mieux la réalité est celle qui exprime le mieux son identité, à savoir la tautologie. On n'est pas loin de l'extase barthésienne, hein, là. Ou du moins du fantasme, de l'utopie de l'extase barthésienne. Alors, le titre que j'avais donné aujourd'hui. Vous voyez la question de limitation de l'existence qui arrive petit à petit et qui m'intéresse. En fait, il n'y a que ça qui m'intéresse. Moi, je suis sorti du fantastique aujourd'hui. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de savoir comment nous pouvons faire pour imiter le fait d'être, puisque nous ne faisons pas autre chose qu'être, je veux dire. Et en même temps, pourquoi il faut imiter cette chose-là pour l'être encore davantage. Alors oui, le titre que j'avais donné ce soir, l'épouvante de l'identité absolue. C'est bonne foi, hein, ça, dans l'improbable. À l'occasion d'un mot prononcé ou d'un nom, l'identité absolue prend le pas sur l'identité conceptuelle. C'est cela, l'épouvante de l'identité absolue. Et c'est le travail de la poésie. Vous voyez, ça me fait penser à cette remarque de Cortázar dans Les fils de la Vierge, quand il dit que pour le poète, ce qui reste encore à dire n'est qu'à répéter. C'est un nuage, encore un nuage, encore un nuage. Ça me fait penser aussi à ce que dit Keith Waldrop, un ami de De Guy d'ailleurs, hein. Ce poète américain, grand poète américain, Keith Waldrop, dans John Barton Volgamot, ce qu'il dit sur Anna Karenine, hein. Il dit que Anna Karenine est un roman, mais que son titre est un poème, et que ce qui arrive à l'héroïne à la fin, écrasée par une locomotive, et a une dimension poétique, et pas diégétique, enfin, c'est pas la fin du roman. Et pourquoi le titre d'Anna Karenine est un poème? Anna Karenine, Anna Karenine, Anna Karenine, parce que c'est un double de ce qui va lui arriver à la fin du roman, c'est un double de sa mort, c'est un bruit de locomotive, hein, c'est sonore, c'est une résonance, c'est un écho, on n'est pas dans un phénomène logique, mais dans un phénomène écotique, phénomène esthétique, l'écho remplace la signification. Et il est vrai que, pour revenir maintenant à De Guy avant de finir, tout ça nous renvoie tout de même à ces travaux de De Guy sur le poétique, dans lesquels il dit par exemple que il n'y a rien de plus poétique qu'une formule du genre dans l'étang, l'eau s'est noyée. Hein. De Guy, arrêt fréquent. Que dit la poésie? Ça, c'est du Roubaud. Hein. La poésie dit quelque chose. Que dit la poésie? Le quelque chose. Le quelque chose à quoi la vie cherche à ressembler pour ne pas ressembler à rien. Le ça de l'exister, le figural, ou selon le mot de Pascal, le figuratif, dont une vie, surtout quand elle est exemplaire, est le Nouveau Testament, etc. etc. Alors, comment ça s'attrape, ça? Le quelque chose à quoi la vie, je dirais l'existence, cherche à ressembler, par l'itérabilité, la même thé, hein, ou par la multivocité. Il donne un exemple de Guy. Il dit « Écrire et un écrivain écrire. Marcher en marchant marcher. Exister et un existant exister. » Bon, là, vous voyez, on tourne autour de cette question de savoir, au fond, ce qui se passe lorsque le « comme », hein, c'est toujours de Guy qui parle, lorsque le « comme » tremble dans le « en tant que ». La poésie, c'est lorsque le « comme » tremble dans le « en tant que ». Hein. Voilà, c'est une remarque qu'il fait à propos des jardins zen, des jardins japonais. J'en finis, comme ça ensuite nous pourrons bavarder. Bon, voilà. Ce qui me travaille, donc, c'est pas nouveau. Hein. C'est très simple. C'est le caractère inimitable du fait d'être, du caractère existant de ce qui est. Mais si le fait d'être est inimitable, du moins, peut-être peut-on, au sens de irreprésentable, dire quelque chose de quelque chose, en dire quelque chose, du moins peut-on peut-être le mimer. Hein. Pour les mêmes raisons qui font par exemple que chez Jon Elster, on ne peut mimer ni l'originalité totale ni l'incompétence totale. C'est la même chose à part que c'est le contraire, hein, nous le comprenons. Pour les mêmes raisons qui font par exemple que dans la véritable éducation, on devient quelque part le double de son maître. On ne comprend pas ce qui est dit, il faut que ce soit imité. Dans l'éducation est porteuse de, c'est pour ça qu'elle a une dimension philosophique, est porteuse d'une dimension non pas technique, mais esthétique. Hein. Lorsque j'éduque, je propose des valeurs dont je fais sentir en même temps qu'elles doivent être non pas appliquées, mais incarnées. Le mal élevé, c'est celui qui applique, hein, au lieu d'incarner. Enfin, voilà. Ça va de soi. Ça va de soi. Alors voilà. Pour mon dernier mot. Il me semble qu'il y a quelque chose de passionnant dans la question du double, dans la peur qu'il provoque, dans l'étrangeté, le sentiment d'étrangeté qui nous saisit lorsque nous le rencontrons, parce qu'il met en évidence que, évidemment, il y aurait moyen de penser un en-deçà ou un au-delà de la représentation, la vieille maladie occidentale, hein, comme dit Deleuze. Il y aurait un moyen de penser positivement la question du double, non pas par le biais de la reproduction idiote, non pas le définissant comme reproduction idiote, mais par le biais d'une réflexion sur ce que j'appellerais la résonance. Hein. Vous vous souvenez de ce que je disais tout à l'heure sur l'écho. Hein. La résonance à la place du rapport intelligible, hein, qui pour moi est toujours un rapport métaphysique, enfin, et qui externalise le point de vue. Hein. La résonance, non. À ce moment-là, aussi bien, on pourrait penser des doubles, évidemment, positifs. Vous voyez, par exemple, je suis le double de mon ange gardien. Je pense à Agamben, mais je ne suis pas du tout agambinien. Hein, mais j'aime bien l'ange gardien. Pour Agamben, c'est dans une mouvance, catholique, bon, apostolique romaine. pour moi, c'est dans une mouvance romaine. Hein. L'ange gardien, c'est latin, hein, comme vous savez, bien entendu. Et c'est ce qui m'intéresse dans l'ange gardien latin, cette idée que j'ai un dieu, évidemment ce dieu c'est moi, c'est l'image que je me fais de ce que je serais si j'étais réellement ce que je suis, enfin bon, etc. Par résonance, comme si, je termine de cette façon, le dieu, mon double, ne faisait qu'un avec l'effet qu'il me ferait. Vous savez que chez les Grecs, chez les Latins, par exemple, lorsque j'aime, lorsque je suis amoureux, je suis Eros, je suis le double d'Eros, mais je suis Eros. Si je veux savoir quelle tête, quelle bobine a le dieu, pas le demi-dieu, hein, ça c'est Platon, enfin bon, etc. Pour les Grecs et les Latins, c'est pour ça que Socrate a été condamné à mort, comme vous savez, hein, dire que l'amour est un demi-dieu, c'était, enfin, vous auriez condamné Socrate de la même façon, hein, ça va de soi, c'est une honte. Bien sûr que l'amour est un dieu, mais un dieu par résonance. Lorsque j'aime, s'il m'arrive de me regarder, je me regarde toujours dans le visage de l'autre, s'il m'arrive de me regarder dans un miroir, ça n'est plus moi que je vois, c'est mon double, c'est Eros. Vous voyez comment le double supprime, remplace les causes par des effets. Il n'y a plus de causes, il n'y a plus que des effets. La profondeur par la surface, il n'y a plus de profondeur, il n'y a plus que de la surface. L'intérieur par l'extérieur. Hein. Les choses telles elles sont extérieurement, telles elles sont intérieurement, etc., etc. C'est pour ça que les enfants nous donnent tellement l'impression souvent d'être des images, hein, de fonctionner comme des doubles. Merci de votre attention.
Merci Richard Méjean pour cette intervention. On va directement passer à la conférence de Madame Natacha Punier et ensuite on aura quelques questions. Les deux conférences dialogueront ensemble, donc je pense que comme ça il y aura des questions qui pourront être aussi des questions croisées auxquelles les deux conférenciers pourront répondre.
Une fois que c'est prêt, c'est bon. Hein.
Là, c'est bon.
Non, parce que je ne peux pas passer d'une image à l'autre.
Peut-être que c'est comme ça. Regarde. En fait, il y a fait diaporama, c'est une image parce qu'on n'a pas tout sélectionné.
Juste en attendant qu'on règle ces petits problèmes techniques.
oui. Moi, il se trouve en effet que j'ai organisé un colloque il y a assez peu de temps que j'avais intitulé Double jeu JEU, double jeu JE, et qui était consacré non seulement aux arts visuels, mais également au théâtre et au cinéma. Évidemment, lors de ce colloque, j'ai pu mesurer l'ampleur de ce thème et l'intérêt qu'il présentait. Et, c'est quelque chose qui est assez évidemment large et qui ouvre beaucoup de perspectives. Une chose m'est apparue également, c'est que bien entendu les artistes de tout temps ont eu une prédilection pour le jeu, un goût pour le jeu. En revanche, le fait de jouer avec le jeu JE ou avec le moi ou avec l'image ou avec leur propre image, c'est quelque chose qui est relativement récent. Et par exemple, énormément d'artistes contemporains ou actuels s'inventent des alter-ego, qu'ils soient du même sexe ou d'un autre que le leur. Ils inventent des personnages auxquels ils confèrent une existence réelle, entre guillemets, en leur donnant des papiers d'identité, par exemple, ce genre de choses. Beaucoup d'artistes également incarnent des rôles, les rôles des personnages fictifs qu'ils inventent. Donc il y a vraiment énormément d'exemples, et la question du double, du redoublement et du dédoublement me semble vraiment paradigmatique de beaucoup de pratiques actuelles. Moi, je m'intéresserai simplement aujourd'hui à deux attitudes. La première qui consiste, alors que j'appellerai, je garde le mot anglais parce qu'il me paraît plus juste, qui est le reenactment, qui consiste pour l'artiste à rejouer des performances qui ont été préalablement inventées, créées par d'autres artistes. Alors, ce ne sont pas exactement des reconstitutions ni des réactualisations, donc on garde reenactment. Le deuxième type de pratique auquel je m'intéresserai, c'est la mise en scène de l'artiste par lui-même, mais la mise en scène de soi en tant qu'un autre. Et toutes ces pratiques sont des pratiques citationnelles qui impliquent donc, évidemment, de mettre en question la notion d'auteur, en particulier, qui est quelque chose qui m'intéresse tout particulièrement. L'image est à l'envers, là, alors je ne sais pas. Je vais venir. Normalement, elle était à l'endroit tout à l'heure. Si on peut la mettre. Alors, si un certain nombre d'artistes de la période postmoderne se placent ostensiblement au centre de l'œuvre, ne tentent-ils pas de défaire, grâce au jeu des doubles, ce qui semblerait par trop évidemment narcissique? Entre redoublement iconographique et image double, les performances et les photographies performatives mettent en question l'acte créateur comme la notion d'auteur. Pensée selon l'économie du double jeu, JE, en matière d'auctorialité, ces démarches supposent en effet que l'artiste s'efface, plus ou moins, certes, devant l'identité artistique ou stylistique d'un autre. Qu'en est-il de cette économie, dès lors que l'emprunt est déplacé de l'œuvre en tant qu'objet à l'action corporelle, comme dans le reenactment? Bien avant les appropriationnistes auxquels elle fut ensuite rattachée par ses nombreuses reprises picturales, Hélène Sturtevant, dont vous voyez ici quelques images, joue pour les filmer ou pour les photographier certaines des performances de Joseph Beuys. Alors, vous avez ici un exemple de Studies for Various Beuys qui date de 1971 et qui sont quasiment contemporaines de Celtics, des performances que Beuys a rejouées plusieurs fois avec des variantes. Ce qu'on peut remarquer sur l'image, évidemment là ce ne sont que des photogrammes de la performance, vous voyez que Sturtevant est vêtue absolument comme Beuys. Elle effectue les mêmes gestes que lui, tracer des signes sur un tableau, se verser des morceaux de gelée, notamment sur la tête. Mais également, lorsqu'elle reproduit ces images, elle les reproduit à la manière dont l'aurait fait Joseph Beuys, c'est-à-dire en noir et blanc, hein, quelque chose qui est assez proche du document originel. Et un regard assez rapide sur ses œuvres pourrait presque nous induire en erreur. Sturtevant est une femme, Beuys est un homme, mais bon, à cette différence près, on est quand même assez proche entre l'original et son double. Voilà. Une autre performance de Sturtevant qui s'appelle Beuys Fat Meditation, qui est un film de 1971, réédite l'action de Beuys, qui est intitulée En nous, en dessous de nous, sous la terre, de 1965, que je vais vous montrer. Voilà. Vous voyez que la similitude entre les deux images, évidemment, est extrêmement grande. Contrairement aux apparences, le fait de tenter de retrouver, outre la gestuelle, l'énergie de celui qu'on appelait le chaman, constitue pour Sturtevant une preuve de leur unicité ontologique. En faisant l'expérience de ce qui ne saurait être éprouvé ni exprimé à l'identique, elle pointe l'impossible reproduction du rituel beuysien et, partant, montre dans l'écart ce qui se rapporte authentiquement à elle seule. Aussi, pouvons-nous suivre Gilles Deleuze lorsqu'il assure, je cite, qu'il faut penser la répétition au pronominal trouver le soi de la répétition, la singularité de ce qui se répète. Car, écrit-il, il n'y a pas de répétition sans un répétiteur, rien de répété sans une âme répétitive. Alors on pourra peut-être discuter plus tard de ce terme de âme répétitive qui est un peu curieux, mais bon. Se mettre ainsi dans la peau d'autrui constitue bien une mise à l'épreuve de l'originalité, ainsi que le dit Sturtevant, mais non quelque illustration de la mort de l'auteur, dont elle rejette absolument l'idée. Ce n'est pas jouer un rôle, ce qui impliquerait une distanciation, un dédoublement de soi, mais c'est au contraire tendre à retrouver l'originel, grâce au redoublement, afin de l'actualiser, c'est-à-dire afin de perpétuer sa contemporanéité. Fondée sur des moyens pour le moins paradoxaux, la démarche de Sturtevant consacre de la sorte l'artiste comme singularité irréductible et contribue donc à sa fétichisation. Pourtant, à l'instar de la plupart des artistes de sa génération, c'est une artiste qui aujourd'hui a plus de 80 ans, hein, à l'instar de la plupart des artistes de sa génération, elle travaille à l'idée d'un art détaché du nom propre et met à l'épreuve la réception d'œuvres d'apparence similaire, c'est-à-dire des doubles. Si Sturtevant doit pour cela inscrire sa propre signature sous celle de Beuys, elle décide également de se conformer à l'effigie que nous connaissons tous. En 1988, elle reproduit l'image sosie de la célèbre sérigraphie de Beuys, La Révolution, c'est nous, de 1972. Choisie parce que particulièrement emblématique d'une conception de l'art comme force sociale et politique, elle montre l'artiste décidé et investi d'une mission transformatrice. Comment Sturtevant saurait-elle incarner à son tour un tel symbole ? Des deux visages qui arrivent inévitablement à superposition, l'aura charismatique du premier ne peut que venir masquer le second. Car, ainsi que le souligne Thierry de Duve, le charisme n'est pas une valeur esthétique. Alors vous avez la photographie, il y a l'affiche montrant Joseph Beuys, et là encore, les similitudes sont absolument frappantes. Et donc, nous n'appréhendons pas tant l'œuvre seconde qu'un simulacre tentant en vain de coïncider avec un mythe, celui de Beuys, fut-il un personnage créé autant par Beuys que par l'histoire. Mike Bidlow, qui a fait partie de ceux que l'on a appelés les appropriationnistes, prolonge également son travail de duplication de peintures modernes, dont celle de Pollock, par des reenactments. Voilà, encore deux images qui sont extraites d'un film qu'il a réalisé. On sait l'influence qu'eurent les photographies de Hans Namuth montrant Pollock au travail dans le déplacement des valeurs d'unicité et d'authenticité de l'œuvre-objet à l'artiste lui-même. Qualifié d'acteur par Harold Rosenberg, Pollock fut du reste conscient de théâtraliser l'activité picturale face à l'objectif. Réalisé en 2004 devant le Metropolitan à New York, Repainting Blue Poles est une performance durant laquelle Bidlow peint un dripping. Destinée à être diffusée par un circuit directement commercial, la scène fut enregistrée pour la télévision. Car à l'évidence, ce que rejoue Bidlow est l'image de Pollock en train d'agir la peinture, telle qu'immortalisée par Namuth. Déjà entachée d'inauthenticité par sa médiatisation acceptée, la spontanéité supposée de l'acte créateur est ramenée à une dimension de pur spectacle. Lorsqu'il titre ses reproductions d'œuvres du XXe siècle, extrêmement fidèle à l'original, rappelons-le, Not Picasso ou Not Warhol, par exemple, Bidlow situe ouvertement sa pratique comme seconde. Appliquée au processus de production, et non plus à l'œuvre finie, c'est-à-dire déplacée vers la personne de Pollock, cette attitude prend acte de la réification du héros mythique de l'expressionnisme abstrait. À l'inverse de Sturtevant, devenu pour l'occasion acteur, Bidlow montre ostensiblement ce qu'Harold Rosenberg qualifie de tension inséparable de la biographie de l'artiste, comme relevant déjà du simulacre reproductible. Au « monde intérieur » entre guillemets cher à Pollock, il oppose le mythe de l'intériorité, et à l'artiste créateur, il substitue non l'âme répétitrice, encore valable pour Sturtevant, mais le pasticheur quelque peu cynique. un autre exemple de reenactment. Obéissant à des visées autres, les Seven Easy Pieces, présentées en 2005 au Guggenheim de New York, consistent pour Marina Abramović à rejouer en public les performances marquantes de Gina Pan, Vito Acconci, Bruce Norman, Valley Export ou Joseph Beuys. S'interrogeant, je la cite, sur la bonne manière de documenter une performance, souhaitant raconter l'histoire de cette forme artistique, Abramović entend s'opposer à la mystification rétrospective engendrée par le caractère confidentiel des performances originelles. Alors, il faut, pour ceux qui ne connaissent pas bien le principe des performances, mais les performances originales, c'est-à-dire celles des années 60-70, les happenings de Capro, les event fluxus, etc., normalement étaient des événements qui étaient uniques, hein, qui ne devaient donc pas être reproductibles d'aucune façon que ce soit. Et les traces qui en subsistent sont souvent de mauvaises photos ou des morceaux de films à peine audibles. Et bien entendu, on peut comprendre qu'une artiste comme Marina Abramović, qui est une performeuse elle-même, tente en fait de redonner corps à ces performances, de les rendre visibles puisqu'elles ont été vues par un public extrêmement restreint à leur époque. Donc c'est presque un travail d'historienne qu'elle effectue d'une certaine façon. Alors, elle réalise ses performances tantôt justement d'après des vidéos, tantôt d'après des photos, tantôt d'après des textes, avec l'autorisation des artistes lorsqu'ils sont évidemment encore vivants. Tandis que Action Pants, Genital Panic, fut réalisé en 1969 dans un cinéma d'art, Valley Export avançant entre des rangées de sièges avec son pantalon fendu, Marina Abramović, comme on le voit sur l'image, se tient à distance sur une scène. Valley Export, Valley Export, lors de cette performance, s'adressant en ces termes au public. Ce que vous voyez là, c'est la réalité. Ce n'est pas sur l'écran. Et tout le monde vous voit en train de regarder cela maintenant. Alors, vous imaginez bien entendu qu'à cette époque-là, donc on est en 1969, une telle action, arrivée dans un cinéma d'art et d'essai, même si on savait que c'était une performeuse, les gens s'attendaient à voir, bien entendu, un film, une projection, et Valley Export arrive avec son pantalon ouvert, elle, donc avec son sexe qui est quasiment à la hauteur lorsqu'elle traverse les rangées de spectateurs, son sexe est quasiment à la hauteur des visages des spectateurs, et ça a une fonction, bien évidemment, provocatrice très forte, et puis d'affirmation antimachiste aussi. Alors, je reviens à l'image qu'en tire Marina Abramović. Alors, durant l'action, Valley Export n'est pas équipée d'une arme. Elle l'est sur le poster que Marina Abramović semble avoir pris pour modèle. Délibérément pensée pour la photographie qui va en résulter, le reenactment place Marina Abramović au centre d'un dispositif essentiellement visuel. Le caractère provocateur, la critique du regard machiste, qui, chez Valley Export, constitue la finalité de la performance, sont atténués par l'aspect glossy de papier glacé pour magazine de luxe, bien sûr absent du document initial. Et cette photographie vient d'emblée se substituer à la réalité de l'action. In fine, ce qu'il résulte de ces jeux d'après, c'est une image seconde, pas tout à fait superposable à l'image originelle, passant du statut de simple trace ou d'affiche à celui de représentation. Dans les performances, happening ou events inauguraux, le corps exhibé était montré comme un corps collectif, social, sexuel ou racial. Ici, il est bien celui de l'artiste seul qui, paradoxalement, ne trouve à exister qu'au travers d'un double écran, celui du modèle et celui de la représentation. Il en reste des figures qui oscillent entre affirmation d'une subjectivité propre et mimésis, entre présence et absence, entre authenticité et simulacre. Impossibles à séparer des icônes dont elles procèdent, ces œuvres, comme leurs auteurs, tentent bien de redonner corps au mythe de l'artiste. Dans le même mouvement, En substituant aux créateurs premiers leur propre visage, Sturtevant et Abramovic ramènent ce mythe à l'image qui l'a constitué et qui l'a fait perdurer. Alors, je passe à l'autre cas de figure, l'autre attitude hein, qui consiste pour l'artiste à incarner des personnages. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le travail de Cindy Sherman, elle est toujours son propre modèle et son propre sujet. Donc, c'est dans les photographies que vous voyez, c'est toujours elle, mais sous des traits différents, bien entendu. Déclarées comme étant des autoportraits travestis ou non, les autofigurations sous des traits d'emprunt des générations les plus récentes signalent sur un mode différent l'éclatement délibéré de la figure de l'artiste en représentation. Modèle et acteur, mais non réellement auteur du personnage de fiction incarné, il assume un double statut, se situant cette fois comme objet, mais également comme sujet de l'œuvre. Acceptant de s'inscrire dans une esthétique de l'après, en produisant ouvertement d'après, ne peut-il faire retour dans la création qu'en travaillant, sous la forme du double, sa propre image ? Qu'il soit de fiction ou réel, les personnages offrent en effet à certains artistes une forme qui, telle une coquille vide, fonctionne comme un moule ready-made ou secoué, débouchant nécessairement sur une image à double lecture. Ce type de démarche repose sur la coexistence d'un double jeu, J-E, où la superposition des identités constitue cette fois la finalité de l'œuvre. Il est impossible de ne pas évoquer le travail de Cindy Sherman, l'un des premiers du genre, comme révélateur d'un changement de paradigme. Se définissant comme une artiste de la performance, Sherman prolonge la démarche d'un certain nombre d'artistes femmes qui, au cours des années 70, recourent au travestissement, changeant de sexe ou de couleur, afin d'interroger l'identité comme construction socioculturelle. Rappelons qu'elles firent incursion dans un monde jusque-là essentiellement masculin, allant contre le rôle passif dans lequel on les avait largement cantonnés, en devenant actrices et productrices de leur propre représentation. Significativement, chez la plupart des femmes performeuses, le statut d'artiste se conquiert par l'intermédiaire du jeu et de l'identité d'emprunt. Dès lors, la fiction devient réalité et l'œuvre devient expérience éprouvée, caractère qu'atteste le mot « being », fréquent dans les titres des performeuses à cette époque. Rien de tel chez Cindy Sherman. Certes, avec ses photographies performatives, l'artiste s'affirme elle aussi comme distincte de la représentation à laquelle elle prête son corps, mais la critique des modèles normatifs a peu laissé place à un corps outrancièrement autoréifié. Mimer la foule des passagers de bus que l'on a vu là, vous avez vu deux extraits, mais il y a toute une série d'images, bien entendu, très très large. Se mettre dans la peau d'un personnage de film de série B, comme on le voit ici, ou bien s'autoportraiturant ou se prenant la place, pardon, d'un autoportrait en Bacchus du Caravage, tous les rôles s'offrent comme possibles. Je ne sais pas si vous voulez que je m'arrête une seconde pour ceux qui ne connaissent pas sur la technique de Cindy Sherman, rapidement peut-être. Non ? Il n'y a pas de trucage photographique, voilà. Il n'y a pas de trucage, c'est vraiment de la photographie argentique et donc il s'agit d'une pure mise en scène et maquillage, etc. Il me reste combien de temps ? Oh, mais ça va. Ça va, on va y arriver. Érigé en postulat, l'artifice de l'apparence mouvante ne déconstruit pas tant la représentation du féminin qu'elle n'est au service de son propre théâtre. Du sujet comme image, c'est-à-dire un sujet soumis au regard, l'artiste semble être passé à, je mets des tirets, l'artiste comme image. Fût-ce pour la mettre à distance, elle retourne en quelque sorte sa propre créativité en spectacle, où la photographie lui tient lieu de miroir. C'est ce que fait ouvertement Yasumasa Morimura lorsqu'il se travestit en star de cinéma, Garbo, Bardo, Monroe, en homme politique. Alors c'est là, voilà, c'est un artiste homme japonais. Donc on le voit là, en Mao Tse-tung. Ou bien il s'intègre dans de célèbres tableaux modernes. Vous avez tous, bien entendu, reconnu l'Olympia. D'origine japonaise, Morimura effectue de la sorte une relecture de l'art occidental, tout en assumant le fait de produire, je le cite, un art de divertissement. Si la procédure adoptée pour la série des Self-Portraits as Art History, dont vous avez un exemple ici, ne se distingue que faiblement de celle des tableaux photographiques de Cindy Sherman, à la différence de celle-ci, Morimura les qualifie d'autoportraits. Mais la Marilyn qui l'incarne est celle-là même dont Warhol s'est emparée. Semblablement, donc, elle n'est pas, elle n'est en rien originale. Et là, vous reconnaissez Duchamp en Rose, c'est la vie, et Morimura a redoublé cette image déjà double de l'alter ego en mettant deux chapeaux, tout simplement. Ah, des choses un petit peu plus drôles. Semblablement, Olivier Blancart se représente en Yves Klein, en Beuys, en Sartre, photographié par Cartier-Bresson, en Debord, mais aussi en Marlon Brando et en Bruce Willis, tel qu'immortalisé par un cliché. On vous en montre quelques images. Là, c'est Joseph Beuys, qui a l'air complètement stupide, comme vous pouvez le voir. Sartre, photographié par Cartier-Bresson. Oui, en effet. Et ça, je suppose que c'est Bruce Willis, enfin, d'une manière tout à fait parodique. Loin de toute introspection, il s'agit cette fois encore de caricatures appliquées sans hiérarchie à diverses figures popularisées par les médias. Auteurs consacrés, héros, stars, sont devenus autant de stéréotypes et de formes creuses sur lesquelles se modeler. D'une manière générale, sur un mode plus ou moins humoristique, la démythification des modèles, qui est aussi insistance sur la facticité constitutive de toute image publique, retentit sur l'emprunteur. Si le dénominateur commun à toutes ces réalisations est bien l'artiste, il ne renvoie pas à quelque unicité. Au contraire, l'attitude de caméléon montre la création elle-même comme un leurre. À rebours des stratégies d'effacement pensées au cours des années 60 et 70, l'invention est ici réduite à la substitution du visage de l'artiste à un autre. Contestataire, subversif parfois, l'artiste s'utilisait alors comme un moyen. Changement de paradigme, il tente aujourd'hui à se prendre pour fin de la représentation. Paradoxalement, la mort de l'auteur barthésienne coïncide ici avec une autocréation de celui-ci en tant qu'image. Encore quelques exemples. La démarche autopoétique de Gavin Turk, dont vous voyez une image ici, me semble fondée sur ce paradoxe même. L'artiste anglais offre ici une représentation tridimensionnelle de lui-même, en Sid Vicious, qui est le bassiste des Sex Pistols, avec la pose d'Elvis Presley jouant au cow-boy dans une sérigraphie d'Andy Warhol. Pop, c'est le titre de l'œuvre, montre l'autoportrait tout ensemble comme autoconstruction assumée et comme fait de réception. Cependant, Turk s'assujettit aux projections dont il fait l'objet. Me as Him est le titre d'une exposition de 2007 où furent présentés des autoportraits de l'artiste en Beuys, encore, hein, en Warhol ou en Elvis, tous sérigraphiés à la manière de Warhol. Bon, je vais quand même vous la montrer. Alors, non, ça c'est... Il s'agit non seulement d'identification physique, mais d'emprunt stylistique. Turk se conforme de la sorte doublement à la figure emblématique du pop art et illustre délibérément le qualificatif de post-pop que la critique lui a attribué. À l'étiquette, l'artiste répond par l'image, confirmant le rejet de l'originalité sur lequel il fonde sa démarche, après les pop artistes et après les appropriationnistes. Ainsi, Turk conçoit son œuvre et son portrait d'artiste afin qu'ils correspondent par avance à un horizon d'attente. Ne renvoyant aucunement à la personnalité au sens psychologique du terme, « me as him » peut être compris comme « moi en lui » et aussi comme « moi comme lui ». Le principe d'équivalence ainsi posé peut recouvrir la pratique artistique, production et réception tout ensemble, et la stratégie, Warhol comme Beuys, comme Elvis, ayant eux aussi élaboré pour partie leur mythe. Ce qui peut apparaître comme une critique quelque peu cynique de l'idolâtrie du marché de l'art et de la vision simplificatrice de la critique, met également en lumière le retour, impossible, détourné, d'un refoulé, l'artiste en tant que figure centrale de la triangulation œuvre, spectateur, auteur, tant honnie par les derniers avant-gardistes. Et le fait que Turk se représente aussi bien en clochard qu'en Che Guevara n'y change rien, hein, puisque voilà l'autoportrait de Turk en clochard. Voilà l'autoportrait de Turk en Joseph Beuys. La sérigraphie de Warhol représentant Beuys, qui a servi de modèle à Gavin Turk. Et je terminerai avec cette œuvre de Douglas Gordon. Donc je terminerai avec une réalisation de Douglas Gordon qui me semble attester une posture plus intéressante. Comment qualifier l'autoportrait qu'il donna en pâture à la presse lorsqu'il reçut le Turner Prize en 1996 ? La photographie, de mauvaise qualité, dont le titre indique qu'il s'agit d'un autoportrait en Kurt Cobain, en Warhol, en Myra Hindley, en Marilyn Monroe, montre un visage à l'expression difficilement définissable, caché en partie par une perruque blonde. Outre ce type de chevelure, les personnages d'emprunt ont tous eu un destin mêlant la gloire médiatique et mort violente. Warhol et Marilyn côtoient la star du groupe Nirvana, qui se suicide en 1994, et une tueuse d'enfants en série, qui est Myra Hindley. Je vais vous montrer l'image. Alors, Myra Hindley, bien entendu, elle a reconnu qu'elle était une criminelle, qu'elle avait commis des crimes atroces, etc. Mais elle a évidemment, la presse s'est exclusivement servie de cette image-là. Et donc, cette image a contribué à donner un visage à la tueuse d'enfants en série, bien entendu. Et c'est pour ça que Douglas Gordon s'intéresse à cette image-là en particulier. Je vais quand même revenir à Douglas. Sans jouer cette fois le jeu des ressemblances, ce portrait collage correspond à ce que Douglas Gordon désigne par l'expression de well-constructed persona. L'artifice affiché corrobore sa stratégie d'artiste. Proposer diverses autobiographies comme, je cite, « montage de mensonges », il ne s'agit donc pas seulement de défaire la notion de moi unitaire, comme l'écrit Nancy Spector, mais de refuser le jeu de la pseudo-authenticité aussi bien que celui des stéréotypes. À l'inverse de Turk, Gordon entend décevoir, en les anticipant, les projections suscitées par la célébrité. Si l'identité se confond avec l'apparence, relevant d'une autopoétique du simulacre, cet autoportrait nous renvoie à une absence, un réceptacle vide, que seuls nos fantasmes sauraient venir combler. Je conclus. Jusqu'à la fin des années 70, la représentation de l'artiste procédait davantage de la réception, d'une construction historique et culturelle, relevant elle-même autant d'une symbolique fluctuante que des réalités sociales. Aujourd'hui, composée et composite, engendrée par l'artiste même, elle semble entièrement tournée vers le spectateur. Après deux décennies marquées par l'ébranlement de l'autorité de l'artiste, ce dernier assume sans état d'âme sa condition d'emprunteur, de suiveur. Des faits, le mythe du pouvoir créateur trouve à s'incarner dans la figure du double jeu, J.E. Mais dans le même temps, celle-ci, possiblement soumise à toutes les réinventions, constitue peut-être le moyen privilégié de ressaisir et de repenser un statut désormais volatile. Plus que jamais personnage conceptuel, selon les termes de Deuzeuse, l'artiste n'emplit-il pas de la sorte pleinement sa fonction de condition d'exercice pour la pensée ? Je vous remercie.
Donc, je vous remercie. Donc, je remercie. Vous pouvez venir peut-être à Monsieur Alain pour les questions. Les deux, vous pouvez rester les deux pour les questions. Je suis ravi. Monsieur Alain Charméjean a pu venir et que ce ne soit pas trompé de moi finalement. On ne sait pas. Peut-être qu'on le saura en posant des questions selon les réponses. Peut-être. aussi le, l'Ange de la Mort de Cocteau. Donc, par rapport, en fait, juste pour introduire à, avant les questions, donc je remercie beaucoup donc les deux conférenciers pour ces conférences, bon, très assez diverses, assez donc assez différentes plus exactement. Donc moi, ce que je trouvais bon intéressant par rapport à la problématique que j'avais posée, ce que j'avais en fait c'est de montrer hein, dans le forum au Collège national de philosophie, c'est qu'il y avait en fond une différence entre la notion de double et de dédoublement. Donc le forum c'était donc c'est le double et dédoublement. Et donc là c'est aussi les thèmes qu'on essaie d'interroger. Et donc j'avais comme ça essayé de montrer que la notion de double se référait à la fois à une notion métaphysique qui est la notion métaphysique d'identité avec un jeu qui était inclus dans cette notion aussi d'identité, une possibilité de jeu sur la répétition. Et donc la notion de double liée à la notion d'identité, tandis que la notion de dédoublement liée à la notion de différence et de multiplicité. Donc là c'est assez je trouve intéressant de voir que finalement ces deux conférences qu'on parlait du double sont attachés à la fois à la notion d'identité, l'impossible identité, l'identité de l'impossible, et à la notion justement de répétition. Donc c'est finalement les deux articulations, on va dire, du concept du double qui nous sont présentées là, à la fois le rapport du double qui interroge l'identité et en même temps le caractère spectaculaire de cette interrogation qui passe par la pseudo-répétition, par la répétition plutôt du pseudo. Et donc j'avais, avant de vous laisser la parole, j'avais deux questions, enfin une question à M. Chapigny et puis une question à M. Alain Charmejean. Donc la première question, enfin, quand vous avez commencé par dire donc le rapport que c'était contemporain, le fait que l'artiste interrogeait donc sa propre image, j'ai pensé, la première question, en fait, je me suis dit, mais du coup c'est quoi la différence? Est-ce que dans l'autoportrait l'autoportrait classique, par exemple, si on prend tous les autoportraits de Rembrandt, est-ce qu'il n'y a pas aussi un jeu, est-ce qu'il n'y a pas aussi un jeu sur donc sur sa propre représentation, sur sa propre image, sur sa propre identité d'artiste aussi, et quelle serait donc la différence avec ça? Et en vous écoutant, j'ai eu une première peut-être possibilité de réponse en repensant à ce que Deleuze dit quand il parle du pop art dans Logique du sens. Quand il dit qu'au fond, le pop art, c'est quoi? C'est pousser le simulacre jusqu'au point où, en fait, ce qui devient faux, c'est le réel lui-même. C'est-à-dire qu'au fond, dans la sérigraphie, par exemple, de Warhol, hein, sur Marilyn Monroe, il dit donc ça, c'est le simulacre. C'est quoi? C'est finalement, à force de répliquer l'image, ce qui devient faux, c'est Marilyn Monroe elle-même. Et d'une certaine manière, et du coup, la répétition devient vraie. Donc finalement, la différence entre les deux, ben, c'est le phénomène du pop art. Du pop art, et justement, c'est la différence, on va dire, entre l'interrogation classique sur l'autoportrait, à travers, donc, par exemple, l'autoportrait de Rembrandt, un très grand nombre, et donc ces pseudo-figurations, c'est cette notion de simulacre et de pop art. Et donc, ma question, c'était est-ce que ces images peuvent se ranger dans cette notion de pop art comme Deleuze a défini?
Oui, je pense aussi que peut-être le simulacre, je crois que c'est Deleuze qui en parle également de cette manière-là, c'est aussi ce qui, justement, permet de ne pas opposer la copie et le modèle. C'est-à-dire que, alors, dans ces œuvres, très concrètement, il y a bien entendu un modèle, mais la copie n'est pas exactement une copie. Mais en revanche, je pense que justement, puisqu'elle n'est pas la copie d'un modèle, on peut la qualifier de simulacre. Mais bon, ça c'est une question qui est quand même assez délicate. Moi, je ne suis pas du tout esthéticienne. Hein, je viens d'histoire de l'art et des arts plastiques. Donc peut-être Alain sera plus à même de... Mais enfin, voilà, c'est ce qui permet de ne pas opposer le modèle à sa copie, le simulacre. C'est dans ce sens-là, moi, que je l'ai compris en tous les cas. La question de l'autoportrait, bien entendu, lorsque Rembrandt s'autoportraiture ou d'autres peintres, hein, c'est quelque chose, une tradition qui est très longue, il arrive de temps en temps que les artistes, en effet, se déguisent et se représentent donc sous des traits d'emprunt. Donc là, on est dans la chose un peu amusante, ou bien on a également, chez Rembrandt aussi, des autoportraits cachés dans des scènes religieuses, par exemple. Ça existe. Mais l'autoportrait, quand même, c'est justement l'interrogation par l'artiste, outre sa pratique, bien entendu, mais de son identité. Et chez Rembrandt, avec le vieillissement, hein, ces choses extrêmement connues, où on le voit passer du jeune peintre fringant à... Enfin, on psychologise beaucoup aussi, peut-être beaucoup trop, sur ses autoportraits. Mais malgré tout, il y a la recherche d'une identité. Chez les artistes dont je parle, il n'y a absolument aucune quête d'identité, puisque, au contraire, on peut dire que lorsqu'il se représente sous les traits d'autrui et en empruntant le style d'un autre artiste ou l'identité artistique d'un autre artiste, on est vraiment très loin de l'autoportrait. Et Yasumasa Morimura, il dit autoportrait en... Bon, donc il pointe l'artifice, mais en aucun cas il ne s'agit d'un autoportrait. Hein, je crois qu'il joue lui-même de cette contradiction-là. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu.
C'est ça, c'était sur en effet le fait que c'était plus autoportrait, parce que justement ça incorporait cette dimension du faux. Incorporait cette dimension du faux liée, bon ben, tout ce qui est lié au pop art, quoi, c'était de consommation, la réplication, etc., la reproduction, etc.
Ça met en jeu aussi la question de l'identité en tant qu'elle est impossible. Ou qu'elle est impossible à cerner, impossible à représenter. Ça met en question la question de, oui, de l'authenticité supposée. De l'identité artistique aussi et de la création, hein. Et ça, quand même, ça va contre un certain nombre des représentations qui ont eu la vie longue, hein, la création comme expression directe d'un moi intime, intérieur, profond, etc. Et évidemment, ça, ce sont des choses que les artistes des années 60 et 70 ont fait voler en éclats bien avant ces artistes-là.
Question à poser à Charles Méjean, mais peut-être je vais vous laisser plutôt la parole. Donc, si vous avez des questions, est-ce qu'il y a des questions? Sinon, je pose ma question et puis on poursuit à partir de là. Donc je ne sais pas si Alain, tu veux réagir sur ce qu'a dit Mme Tachet Punier.
Non, je ne veux pas réagir. J'ai écouté ce que tu viens de dire à l'instant, mais qui vient en même temps aussitôt de m'échapper. Mais t'es tellement en train de m'intéresser que j'oublie. Oui, c'est ça. Enfin, oui, c'est ça. La fausse question et en même temps la vraie question de l'identité au fond. Hein. Oui. Ce que dit Deleuze sur le simulacre est passionnant. Deleuze voit très bien pour quelle raison. C'est dans logique du sens. Hein, donc. Deleuze voit très bien. Ils sont pas si nombreux les historiens de l'art qui le voient si bien en fait. Peut-être parce que ils sont parfois occupés, ils sont trop préoccupés par l'idée de cerner Platon et ils oublient de penser. Hein, mais enfin, Deleuze voit très bien pourquoi chez Platon la question du simulacre est une question centrale. C'est que évidemment, ce que Platon pointe dans le simulacre, ça n'est pas l'illusion, pas la mauvaise copie en tant qu'elle est illusion, qu'elle nous éloigne du réel, mais exactement le contraire. Que le simulacre nous ferait presque croire que le réel est insignifiable. C'est ça son problème. Hein. C'est-à-dire qu'il est plein. Que rien ne manque. Hein. C'est ça le problème. Par conséquent, la bonne copie, c'est celle qui, non pas représente la chose, mais représente l'idée de la pensabilité même de la chose. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait toujours de la distance. Il faut qu'il y ait de la distance. Alors, l'histoire de l'art ne cesse de jouer avec soit la représentation de la distance, soit avec l'impossibilité de représenter la distance. Hein, et c'est Caravage Ravage et Poussin, enfin, c'est l'événement et l'histoire, etc. Dans les deux cas, ce qu'on voit est presque impossible à voir, évidemment. C'est ça qui est passionnant. Il y a une étrangeté de l'histoire de l'art en tant qu'elle tourne autour soit du point aveugle de la représentation, soit qu'elle fasse comme si elle ne représentait pas, ce qui est évidemment une utopie. Mais je vous ai coupé la parole.
Non, du tout. C'est moi qui vous avais demandé donc si vous aviez quelque chose à ajouter par rapport à ce que Natacha avait dit. Donc moi, par rapport à la conférence, quoi, à votre intervention, j'aurais juste une première question. Première question d'ailleurs, en fait, beaucoup de questions. Hein, cet exposé très riche. C'était donc sur un moment donné, vous avez dit donc simplement que le double interrogeait l'adéquation entre le vrai et le réel. Est-ce que vous pouvez préciser la nature de cette interrogation?
Vous voulez que je recommence ma conférence, c'est ça? Non, mais il me semble que, évidemment, notre essentiel de l'histoire de la pensée occidentale depuis Platon, c'est une histoire qui est hantée par le modèle mathématique. Hein, et qui a tendance à faire coïncider les significations que nous mettons sous les mots vrai et réel. Bon, le double casse cette convergence, hein, puisque vrai, avec le double, vrai ne veut plus rien dire. Il n'est pas vrai que mon double soit vraiment mon double. Vous comprenez pourquoi ? Puisqu'il est mon double. Hein? Rien n'est pas là. Le problème que pose le double, c'est que, évidemment, on peut toujours se poser la question de savoir s'il est le produit de quelque chose. C'est une cause au fait que le double arrive. Hein? C'est pour ça que le double est fantastique et pas merveilleux ou féerique, etc. Mais lorsqu'il est là, le double y est comme, si je peux dire, s'il n'avait été causé par rien. Il ne peut pas être produit le double, puisque c'est exactement la même chose. Alors on me dirait, mais c'est pas vrai, puisque de toute façon, il y a le double et cela dont il est le double, et qu'il dit. Le double est censé fantastiquement annuler cette opposition, vous comprenez? Bien entendu qu'elle n'est jamais annulée, surtout pour celui qui, dans la littérature, au cinéma, dans la photographie, etc., assiste, rencontre, l'événement du double. Vous noterez d'ailleurs que au cinéma, enfin dans la mise en scène, dans la fiction du double, on n'est jamais censé voir le même et l'autre, parce que le double n'est pas l'autre du même, n'est pas un événement surnaturel par rapport au même. En fait, le double n'est pas là. C'est pour ça qu'on ne le voit jamais. On ne le voit pas. Lorsqu'il y a un double, c'est bien le même qui est le double. Vous comprenez? Ce qui fait qu'il est, moi je crois, enfin, ça travaille beaucoup Rosset, ça, hein, comme vous savez, cette question de du double comme voie d'accès au réel, comme il dit. Hein. Bon, il y a l'enfance, il y a l'ivrognerie, il y a plein de choses, hein, bon, chez Rosset, qui sont des voies d'accès au réel. Mais on voit bien pourquoi le double en est un de façon privilégiée. C'est l'épouvante de l'identité absolue. Et par conséquent, il nous empêche de nous représenter ce que nous disons lorsque nous disons d'une chose qu'elle est vraie. Il nous empêche de nous représenter ce que nous disons lorsque nous disons d'une chose qu'elle est vraie. Si jamais nous pouvons nous représenter quoi que ce soit lorsque nous disons ça, hein, ce dont je doute philosophiquement. Alors vous me direz, mais vous le prenez bien de haut. C'est lorsqu'on dit d'une chose qu'elle est réelle qu'on ne peut pas se représenter ce qu'on dit. Essayez de m'expliquer ce que vous comprenez que vous dites lorsque vous me dites d'une chose qu'elle est vraie. La question du vrai est aussi complexe que celle de l'être. J'insiste un petit peu, hein, parce que je sais que les philosophes analyticiens là bondiraient sur leur chaise, bien entendu. Mais dans les deux cas, on est piégé. Étant donné mimésis, elle est réductible à l'absurde.
Pour ceux qui ne sont pas familiers forcément avec la pensée de Clément Rosset, je vais juste lire cette citation du réel et son double. Donc Clément Rosset, donc dans le réel et son double, donc c'est dit cela. Donc le réel n'est admis que sous certaines conditions et seulement jusqu'à un certain point. S'il abuse et se montre déplaisant, la tolérance est suspendue. Un arrêt de perception met alors la conscience à l'abri de tout spectacle indésirable. Donc, pour Rosset, la notion de double, de ce point de vue, joue avec le réel et joue aussi avec l'impossibilité de voir le réel comme réel. C'est-à-dire que au fond, il y a deux choses chez Rosset. Deux choses. Je résume de façon un peu simple. Hein. Il y a beaucoup de choses à reprendre, mais simplement pour présenter un peu pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette idée chez Rosset. Chez Rosset, au fond, le double, c'est le risque du double, c'est de nous faire oublier le réel. Donc il y a une sorte de supercherie possible du double qui consisterait à nous faire oublier que le réel est réel et seulement réel. Et donc c'est pour ça que pour Rosset, finalement la production du double, elle vient à partir du moment où quelque chose dans le réel dépasse. C'est une interprétation que je pourrais donner, qui est une interprétation un peu nietzschienne, qui irait dans un sens différent, dépasse finalement notre capacité de le percevoir. C'est-à-dire notre capacité de percevoir le réel, à un moment donné, est dépassée parce que le réel nous montre, hein, pour une raison ou pour une autre. Et donc, on invente comme ça, on se fait comme ça une projection du double, une projection d'un monde qui serait un monde dédoublé. Et donc, c'est aussi pourquoi, Otto Rank essaye de définir donc le double. Il dit pourquoi est-ce que finalement on s'est mis à penser à l'existence d'un double, hein, pourquoi on s'est mis à penser à l'existence d'un double. Et l'idée d'Otto Rank, c'est finalement que l'homme aurait inventé la notion double, inventé donc tout ce qu'il y a à travers la notion double, à savoir la survie de l'âme, etc. L'idée d'un autre monde, etc. Donc là, je prends évidemment la notion de double d'un sens très différent. Pourquoi ? Pour échapper à la mort. Donc c'est l'angoisse de la mort qui fait que finalement on invente un double de lui-même et ça a été dissocié du sujet lui-même. Donc pourquoi ? Parce qu'il a voulu comme ça se survivre dans un autre lui-même. Un autre lui-même qui est à la fois lui et pas lui-même.
Comme je ne suis pas sûr d'avoir intégralement compris ce qu'a dit M. Gérard-Méjean, j'ai compris des choses quand même. Je rebondis tout de suite sur ce que tu disais par rapport à l'angoisse de la mort. Et je voulais vous demander si ça avait à voir à faire avec ça, cette propension du double à faire exister quelque chose pour éviter qu'il n'y ait rien, quelque chose comme ça. Est-ce que je suis à côté de la plaque ou est-ce que vous parlez de ça à demi-mot ? L'angoisse de la mort ou l'angoisse de je sais pas d'un néant comme ça.
Non, si vous voulez, en reprenant les choses à partir de ce que disait Jean Vertebis, je réponds à votre question, hein, si vous voulez, même si vous avez l'impression que je fais un détour, j'essaie d'aller vite. Ce que nous avons tendance à, puisque nous ne supportons pas le réel, dans la mesure où il n'est que réel et rien d'autre, hein, il n'est pas signifiable, il n'est pas une vérité, une signification, etc. Il est trop occupé à faire ce qu'il fait, c'est-à-dire être, exister, donc il est réel. Hein. Le réel n'a pas le temps de faire autre chose qu'être réel, par exemple, se présupposer, s'externaliser dans un sens qui serait le sien. S'il y avait, en plus du réel, un sens du réel, il faudrait qu'il soit en dehors du réel. Or, il n'y a rien en dehors du réel, et par conséquent, la définition du réel, c'est de coïncider avec lui-même au point que le jour où on l'aurait entièrement expliqué, son explication ne serait rien d'autre que lui ou un sur un. Hein, on est bien d'accord. C'est cette catastrophe de l'explication du réel par le réel qui intéresse Rosset. C'est la raison pour laquelle, évidemment, nous inventons pour ça des surnatures, des choses qui nous permettent, en définitive, d'hypostasier une signification supplémentaire. Voilà, c'est tout. Ces doubles du réel sont des faux doubles. Pourquoi ? Parce que le réel est EST, son propre double, toujours. Hein. Alors, le réel, c'est ce qui ne manque de rien. Avec le réel, rien n'est pas là, ni avant, ni après, ni au-dessus, ni en dessous. Et par conséquent, la question de la peur de la mort ne se pose même plus. Hein. C'est-à-dire que la question de la projection sur ce qui pourrait manquer ne se pose pas. C'est sans doute une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, par exemple, dans les philosophies de l'existence, au fond, hein, comme la philosophie de Rosset, la joie est le sentiment dominant. Le rapport au réel appelle la joie plutôt qu'autre chose. Appelle l'étonnement, le saisissement, hein, peut-être l'effroi, pas la peur, hein, l'effroi, mais surtout la joie, le sentiment que forcément tout est là. Donc par conséquent, la question de la manière dont la psychanalyse, par exemple, pose la question du double, hein, le double c'est le colossos, enfin c'est l'image de la mort, etc. Moi, dans ce qui m'intéresse avec le double, ça n'intervient pas. Vous me direz, mais vous avez parlé, dans ce que vous avez dit, vous avez parlé de la mort. Non, j'ai parlé du mort. Mmh. C'est pas du tout la même chose.
Question. Je veux juste, comme vous parliez, juste là aussi une idée qui ensuite est évidemment. On vous écoute après, est reparti. Oui, donc dans le rapport finalement, dans le fait que le rapport du double, en fait le double finalement figure l'identité du réel à lui-même.
Oui, exactement.
Ok. Donc je pense que c'est comme ça qu'on peut le comprendre.
C'est une fiction, si c'est plus ça. C'est la fiction de ce pourquoi il n'y a pas de fiction, hein, mais qui est l'identité du réel avec lui-même. Je dirais, mais comment penser une chose pareille, enfin. Et ça, c'est l'acte de penser. Mmh. Je trouve que la pensée affronte son absence du côté du réel. Et c'est être humain que d'avoir affaire à ça. Qui n'est pas un problème du tout, d'ailleurs. Pas du tout un problème, ça. C'est un mystère, mais pas un problème. Un mystère, ça veut dire que c'est à la fois le problème et la solution. Non, mais on s'entend, là, non ? Ah oui.
Non, c'est moi qui ai gardé ça.
Je suis désolé. Vous enregistrez tout, il y aura un double de la soirée.
Mais je peux poser une question, mais peut-être.
Vas-y.
Est-ce que, d'une certaine façon, on a besoin du double pour avoir accès au réel ? Je ne sais pas si c'est un mot. Je ne sais pas si le mot convient. Je ne sais pas si le vocabulaire convient, mais est-ce que. Donc le réel, il est plein, il est reclus en lui-même, tout va très bien. Est-ce qu'on a besoin de ce double pour qu'il nous apparaisse à nous ? Ou encore une fois, je fais fausse route.
Non, mais là, c'est c'est la question. Hein, ça me semble que là, c'est vraiment la question. C'est la raison pour laquelle je parlais de seconde chance. Hein, je faisais référence à Cavell. Hein. Évidemment, il se trouve que je vais dire nous sentons, ou nous jugeons, peu importe, prenez-le comme vous voulez, nous sentons tout ce que nous pouvons sentir, toutes sortes de choses concernant les qualités des choses, leur modalité d'être. Mais nous avons du mal à les sentir être, et il semble que ce soit dans un second temps, en réalité c'est dans un troisième, hein, c'est le troisième degré, c'est toujours dans un second temps que nous les sentons être. Ce soir, je peux vous appréhender, hein, je peux être affecté par vos existences de 100 000 façons, la couleur de vos vêtements, vos sexes, votre taille, etc. Mais je peux aussi, tout d'un coup, vous sentir exister, vous comprenez ? Même si ni vous ni moi ne savons exactement ce que nous nous représentons lorsque nous disons ça, mais en même temps, nous comprenons ce que nous disons. C'est dans un second temps. Il est certain que le double est sans doute une voie d'accès à cette épreuve-là, à cette expérience-là. Hein, parce qu'il est, il dégage le caractère seulement existant de ce qui est. Oui, bien sûr. Mais il y en a d'autres. Il y a d'autres voies d'accès. Bien sûr. L'art.
Est-ce qu'il n'y a pas une dimension que il n'a pas été entendu là, qui est la dimension temporelle. C'est-à-dire qu'il me semble que d'abord, il y a chez Rosset un glissement apparemment non contrôlée entre réel et réalité. Dans tout ce que j'ai lu de Rosset, il est question essentiellement de réel. De temps en temps, ça bascule vers réalité. Et en même temps, il souligne à un moment ou à un autre que le réel, reprenant, je crois, ce que disent les stoïciens sur ce point, se conjugue au seul présent. Ce qui me ferait dire ou reformuler la chose en disant que le réel est fondamentalement événementiel. Le réel, c'est ce qui arrive, alors que, ou encore une autre façon de dire, peut-être serait que le réel n'a de statut que dans le présent de sa présentation, en quelque sorte. Tandis que le double, en tant que représentation, il détruit la notion même de présent de la présentation. Je pense qu'il il introduit une fixité, sans doute, qui est aussi une autre dimension de son incompatibilité constitutive avec le réel dont il est le double.
Oui, on est au cœur du problème, là. Hein. De toute façon, on n'en sortira pas. Mais à propos du jeu réel-réalité chez Rosset, non, c'est quand même très clair chez lui. Hein. Ce qu'il appelle le réel, c'est, je le cite, le caractère existant de ce qui est. Il se trouve que la réalité, dans son habitée par l'ironie du fait que les choses soient, évoque souvent pour nous le réel. Hein. Lorsqu'un accident m'arrive dans la réalité, ce qui m'arrive en réalité ne m'arrive pas en réalité, mais comme l'événement du réel. Hein. Bon, ce que vous dites à propos de la question du présent absolu, est très important. Moi, je dirais que le double est la fiction, évidemment avec usage du temps, de l'impossibilité pour la fiction de faire arriver le temps autrement que dans de l'immobilité, évidemment. Le double intensifie l'impression qui est nôtre que de toute façon, lorsque nous avons affaire au réel, c'est toujours à présent. Hein. La formule d'Hemingway dans « Pour qui sonne le glas » Le scénario, le texte qu'il donne pour le film, hein, et pas le livre, la fin du film, le présent, quelque chose du genre, ce qui nous arrive ne cesse d'arriver au présent, et c'est la raison pour laquelle cela ne finira jamais. C'est toute l'ambivalence, en définitive, de ce... cette épaisseur, cette dimension intensive du présent, que le double, au fond, moi je ne dirais pas que le double décale dans le temps l'arrivée du réel. D'une certaine façon, il se contente de l'intensifier. Il nous rappelle à l'ordre du réel. Alors pourquoi avons-nous besoin d'être rappelés à l'ordre? Parce que nous oublions, nous sommes distraits. Enfin, nous nous représentons, nous n'arrêtons pas de nous représenter. Et le double, c'est quand ces rares moments où la représentation s'arrête.
Je vous remercie pour cette question parce qu'en fait c'est aussi un peu la question que je voulais poser et je pense que la réponse par rapport à la temporalité c'est justement dans la distinction entre double et dédoublement. Je pense que justement dans cette notion de double où on voit qu'il y a l'identité, en effet on est là dans une idée de présent, on est là dans une idée finalement comme Charles Jean l'a dit, d'immobilité avec finalement tout ce que ça comporte de tradition, on va dire de Parménide jusqu'à Heidegger, Wittgenstein, etc. C'est-à-dire l'immobilité, l'être est ce qu'il est, l'être est, donc il y a une immobilité du temps liée à finalement au surgissement de la catégorie d'identité, donc chez Parménide, l'être est, catégorie d'identité qui surgit, et du coup, ce que ça entraîne, c'est finalement la disparition de la notion de temps, l'immobilité, le caractère figé, comme ça, du réel. Et donc, si on veut penser comme ça le rapport du double et du réel, justement, il faut passer à la deuxième figure, finalement, qui serait celle du dédoublement. Et notre tradition, par exemple, celle de notre tradition, et là, on peut penser à Bergson. Donc, par exemple, vous disiez l'image dans le cinéma est au présent pour Barthes. Mais c'est quelque chose que Deleuze critique absolument dans Image-temps, Image-mouvement, en disant qu'au contraire, l'image cinématographique n'est pas au présent. C'est, pour lui, c'est un contresens absolu sur la nature du cinéma que de dire ça. Pourquoi ? Parce que justement, là, chez Deleuze, chez Bergson, la notion de dédoublement, cette fois-ci, joue sur le rapport entre actuel et virtuel, et ce rapport-là, chez Bergson, il est constitutif. Il est constitutif du surgit de l'émergence du temps. Donc là, il y a une vraie bifurcation, hein, entre double identité, toute une tradition, hein, tautologie, identité, être, etc., et une autre tradition, okay, qui est donc liée à la différence, etc., et donc au surgissement du temps. Et c'est pour ça aussi que Bergson ferait une autre interprétation, même de la notion de double elle-même, hein, de la notion de double comme identité. Il y a toute cette interprétation qui fait dans son texte sur la fausse reconnaissance, disons que finalement, quand il parle du sentiment du déjà-vu, finalement, une forme d'explication philosophique, neurobiologique, si on peut dire, de la notion de double, dit qu'au fond, c'est parce qu'au fond, à chaque moment du temps, le présent et le passé coexistent. Et donc, finalement, pourquoi est-ce que... Donc ça, c'est là qu'est la présence du double, en fait. La présence du double, quand il annule le temps, c'est parce que c'est dû à la coexistence du passé et du présent. Et si on voit le double, c'est parce qu'au fond, par un mécanisme de relâchement, d'attention à la vie, comme ça que Bergson parle, on passe du côté du passé, et donc on voit le présent du côté du passé qui se conserve. Et donc, au moment présent, les deux sont identifiés. Alors, on peut y dire que cette identification montre qu'il n'y a que du présent, ou alors montrer que finalement, c'est déjà cette présentification, elle n'est possible que comme l'image inversée déjà du passé, qui elle-même, qui ensuite, par le jeu de différentes virtualisations, etc., entraîne notre pensée du temps. Je pense que là, c'est à la bifurcation. Donc, donc on me fait signe. Donc, en effet, là, on doit s'arrêter pour faire la pause. Donc, je vous invite tous à revenir. On pourra poursuivre la discussion avec donc la conférence de M. Samuel Tronson. Donc, je vous remercie pour votre attention et à tout de suite.